Annoncé lors de sa première venue dans nos studios Radio Occitanie, nous avons la joie d'avoir dans nos studios Jean-Pierre Lassalle. Monsieur le professeur Lassalle, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être revenu nous voir, comme nous l'avions dit, pour nous parler de cet événement qui va avoir lieu donc demain, vendredi 27 octobre, puisque l'Académie des Jeux Floraux va organiser un colloque sur les poètes de la Belle Époque. Alors, dans ce colloque, vous allez nous parler de Saint-Paul Roux. Nous avons vu la semaine dernière que Monsieur le professeur Arlet allait nous parler des poètes de la Belle Époque de Toulouse, en particulier. Je crois de Maurice Magre, non,
Oui,
oui,
c'est ça.
Maurice Magre, voilà. Hein? Donc il y a, je vous invite les auditeurs à consulter notre site les-poètes.fr où l'ensemble de programmes de ce colloque est accessible. Alors, ce colloque se situe le cadre d'un salon qui est le salon des gourmets de lettres, hein, qui se prolonge donc, qui démarre avec ce colloque le vendredi, mais qui se prolonge le samedi et le dimanche avec des distributions de prix. Et puis un deuxième colloque également sur le poème et le lieu, que j'aurai le plaisir également d'animer le dimanche dans l'hôtel d'Assesa, dans les locaux de l'hôtel d'Assesa, à 18h. Alors, si vous le permettez, je vais juste faire deux annonces très rapidement, parce que je pense que cela le mérite, mais sans développer, puisque cela fera l'objet d'émissions ultérieures. Alors, tout d'abord, un livre original, La vie de Marie à travers les poètes. C'est une belle sélection de poèmes autour de la Vierge Marie à plusieurs époques de sa vie. C'est une découverte en poésie de la vie de la Mère de Dieu. Alors, c'est aux éditions Artege, hein, qui sont d'excellentes éditions. Ce sont des textes rassemblés et présentés par Françoise Clostre, qui avait fait d'ailleurs un précédent ouvrage sur la vie de Jésus à travers les poètes. Alors, les poètes de tous les siècles ont chanté la Vierge Marie. Ce choix d'une vingtaine de poèmes nous permet de suivre la vie de la Mère de Jésus avec émotion ou passion, selon leurs auteurs, qu'ils soient connus pour leur foi religieuse ou moins attendus dans un recueil dédié à la Vierge Marie. C'est ainsi que Paul Verlaine, Émile Verhaeren, Paul Claudel, Max Jacob, Alphonse Daudet, Francis Jammes, Apollinaire, Rimbaud et bien d'autres évoquent en toute liberté la vie de la Vierge Marie de sa conception à son assomption. Voilà. C'est édité aux éditions Artege. Il y a 120 pages à ce livre et il vous coûtera la somme de 11,90 €. Et puis Bruno Emsica, l'excellent éditeur des éditions Carder, qui publie abondamment beaucoup de livres essentiellement sur l'écologie, a ouvert depuis toujours une fenêtre sur la poésie. Et c'est tout à son honneur. Cela, il s'agit vraiment d'un éditeur professionnel et qui, je peux en témoigner, puisque j'ai eu le bonheur de publier chez lui, s'occupe bien des auteurs et d'une façon extraordinairement, je dirais, légale. Alors, il publie de Maëlle Levaché, La veillée de l'hyène. Donc, dans la collection Poésie contemporaine, une hyène rencontre les défunts qui errent dans ses limbes avant de parachever leur disparition. Alors, ce livre m'a fait penser à un autre livre dont nous parlerons ici, qui va être d'ailleurs, dont on parlera au salon, puisque c'est monsieur le professeur Jacques Carlet qui m'a présenté cet auteur, dont nous vous parlerons plus tard, et qui a écrit des poèmes sur Addis Abeba, et où, dans les rues de la ville, se promènent des hyènes en liberté. Voilà. Non, et ça fait partie des animaux familiers que l'on rencontre dans la ville. Voilà. Alors, Maëlle Levaché, Tremblay, Frères mortels, L'hyène est sortie, elle rôde partout, invisible, omniprésente, avec sa lente patience et son palais carnassier. Personne ne lui échappe, elle n'en laisse pas une miette, à peine une pelote, comme un oiseau de nuit. Voilà, elle est leur ultime interlocuteur, cette hyène. Elle est cynique, elle est condescendante, elle est propre, sa pensée est sans issue. L'hyène ne laisse rien à ceux qui paraissent devant elle. « Veux-tu, lecteur, nous dit l'auteur, t'asseoir un moment à son flanc pour te divertir des vanités, des prétentions sentimentales, de la comédie, du sens, qui voudrait se jouer du trépas? Veux-tu dès à présent poser les yeux sur le dénuement sec et sans relief de son territoire? Veux-tu savoir comment elle répond à qui, héros, bourre, animal, l'interpelle? Ainsi, tu te feras à sa musique, à sa prose, à ses vers, avant de paraître à ton tour devant elle. Notre tour viendra, et tandis que déjà l'on prépare un plaidoyer dérisoire, l'hyène se dandine dans le désert, en couinant ses croches inégales. » Voilà, Maëlle Levacher, aux éditions Carder, 12 euros, 52 pages. Voilà pour les annonces. Je tenais à le faire parce que j'ai beaucoup d'estime pour ces éditeurs qui prennent des risques quand même pour les poètes. Voilà. Avez-vous, monsieur Lassalle, nous allons parler d'un des grands poètes célébrés par les surréalistes. Hein. Donc Jean-Pierre Lassalle, pas besoin de rappeler à nos éditeurs que vous êtes un poète surréaliste, mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux depuis 1983, ou 1983, que vous êtes professeur émérite de l'université maintenant Jean Jaurès de Toulouse, et que bien sûr vous êtes très... vous avez une œuvre poétique dont nous avons parlé ici, et vous avez approché longtemps André Breton, et donc vous êtes conquis à cette poésie surréaliste. Vous avez fait d'ailleurs, je dis ceci de mémoire, l'inventaire de la bibliothèque de Benjamin Perret, hein, en son temps. Voilà. Et donc c'est un plaisir de vous avoir ici pour nous parler de ce poète Saint-Paul Roux, qui est, j'ai été étonné de voir, je fais un petit sondage là, et auprès de mes proches, de voir qu'il n'était pas très connu, Saint-Paul Roux, actuellement. Donc, et il y en a même qui m'ont dit, mais qui est-ce?
Donc, il n'y a pas d'offense. Ah, il n'y a pas d'offense. Oui. Mais je voudrais dire d'abord un mot de ce colloque qui porte, qui a un titre interrogatif, n'est-ce pas? Les poètes de la Belle Époque, une avant-garde, point d'interrogation. Oui. Alors, ce poème de l'avant-garde, moi, j'aime pas trop ce terme, mais enfin bon, je préfère employer le terme de modernité. Et c'est vrai qu'il faut s'interroger sur cette période un peu avant 1900 et un peu après. En effet, il y a une sorte de vulgate chez les gens, en fait, relativement lettrés, où après l'extraordinaire vent de modernité qui a commencé à souffler avec Baudelaire, qui s'est continué avec Lautréamont, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, là tout d'un coup, en attendant Alcool d'Apollinaire en 1913, on a l'impression qu'il y a une espèce de désert. Or, ce désert, ce n'est pas un désert du tout, il est peuplé de quelques noms importants, et l'un des moins connus, effectivement, c'est Saint-Paul Roux, sur lequel je voudrais rappeler quand même quelques points biographiques,
oui,
n'est-ce pas,
avant
d'aborder l'œuvre.
Oui.
Alors, Paul Roux est né dans les environs de Marseille, enfin dans la banlieue de Marseille, à Saint-Henri, c'est un quartier qui est
provençal,
toujours,
donc,
pas, en 1861. Et il fait des études à Lyon, des études secondaires à Lyon, puis il monte à Paris, où comme les trois quarts des jeunes gens de l'époque, il commence son droit. Mais il se met très tôt à écrire des poèmes, et surtout des poèmes dramatiques. Il est obsédé par le théâtre, n'est-ce pas? Et... en 1885, ça c'est une première date importante, un peu antérieure à notre période, il rencontre Pierre Quillard, totalement oublié, et Ephraïm Michael, le poète de Toulouse. mort à 24 ans, et dont la statue est près de celle de Goudouli, place Wilson. Et il rencontre aussi Villiers de l'Isle-Adam. Et avec eux, ils fondent une revue très importante, la Pléiade, une revue d'ailleurs, excusez du peu, qui publiera le traité du Verbe de René Gil et des œuvres de Maeterlinck. Il a été très influencé par Maeterlinck. Et puis, cette revue, évidemment, publie les premiers poèmes en prose de Saint-Paul Roux, qui est le nom de plume qu'il adoptera définitivement en 1890, en utilisant un monogramme, d'ailleurs un peu partout, SPR, magnifiquement calligraphié. Et en 1891, il rencontre Mallarmé, qu'il reverra, il sera un des proches et un disciple de Mallarmé, Mallarmé qu'il appelait son fils.
Oui, son fils.
C'est pas rien, oui. Pas rien. Oui. Alors, juste un autre détail, marié et père de famille, il a de grandes difficultés financières, et il part, pour son malheur, mais aussi pour son bonheur politique, en Belgique et dans le Luxembourg belge, en pleine forêt, ou alors là, il rêve, il écrit des choses admirables, et ce sera une des grandes inspirations de son œuvre, que cette espèce d'identification à la forêt. Et surtout, il y écrit, en pleine forêt, en plein dénuement, il a connu la disette, hein, il écrit « La dame à la faux », qui est une superbe pièce, injouable évidemment, on a essayé de la jouer, injouable, « La dame à la faux », que le Mercure de France lui fera imprimer en 1899. Alors, il y a une date qui est importante, que je voudrais signaler tout de suite, parce que c'est une date qui va le sauver, c'est l'année 1900. Alors là, vous voyez, on est au cœur de la période du colloque, n'est-ce pas ? En 1900, il écrit un livret d'opéra, Louise, du compositeur Gustave Charpentier. Et c'est un opéra qui a un immense succès. Et Charpentier a conclu un accord avec Saint-Paul Roux, avec son librettiste. Ce dernier ne sera jamais cité et il cède tous ses droits au compositeur, mais pour prix de cet effacement, qui n'est pas tout à fait à l'honneur de Charpentier, disons-le au passage, Saint-Paul Roux reçoit la somme énorme de 10 000, plus de 10 000 francs de l'époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors là, tout d'un coup, il sort de la misère, et le voici délivré pour un temps des soucis matériels, et c'est là, en 1903, qu'il achète à Camaret, dans la presqu'île de Crozon, un terrain sur lequel il va faire construire un manoir néo-gothique dont il ne reste que les ruines, on en reparlera tout à l'heure. Il va s'installer, donc lui, le Marseillais, il va s'installer, il adore la Bretagne, il va s'installer à jamais en Bretagne. Mais c'est un homme qui a connu, malgré cette réussite momentanée, des épisodes tragiques. Bon, comme tant de Français, il a perdu un fils à la guerre, devant Verdun, hein, et fils d'ailleurs, qui s'appelait Cécilian, et il a appelé le manoir du nom de son fils mort, n'est-ce pas ? Et, autre événement qui est à la fois poétique et terrifiant, c'est, il échappe à la mort le 29 mars 1918, lors du bombardement allemand, avec la grosse Bertha, sur l'église Saint-Gervais, qui fit une centaine de morts parmi les fidèles. Lui et sa fille font partie des rescapés. Et alors, après la guerre, c'est ce que vous évoquiez au tout début, il est un objet de l'admiration, il est l'objet de l'admiration d'André Breton, qui vient le voir à Camaret en septembre 1923. Et, à la fin de l'année, en novembre 1923, André Breton publie son admirable recueil de poèmes « Clair de terre » avec la dédicace au grand poète Saint-Paul Roux, à ceux qui, comme lui, s'offrent le magnifique plaisir de se faire oublier. Ça, c'est avec Saint-Paul Roux en grosses lettres et magnifique, évidemment, en grosses lettres, puisque déjà Saint-Paul Roux se fait appeler le magnifique. Et alors, je passe sur d'autres... Dans la discussion, ça reviendra. Pour arriver tout de suite à la fin de sa vie, qui est aussi un épisode tragique, tout à fait tragique, puisque en juin 1940, un soldat allemand pénètre de force dans le manoir du poète, le brutalise et le jette dans l'escalier, Es-tu la jeune bonne qui voulait s'interposer entre le soldat et la fille de Saint Paul Roux ? Il viole la fille du poète, divine, qui survivra. Saint Paul Roux, blessé et brisé par l'épreuve, mourra en octobre à l'hôpital de Brest. C'est tout à fait tragique comme événement. Et le poète Robert Ganzo, rassemblant divers textes sur les poètes morts tragiquement à la guerre, Desnos et autres, etc., consacrera un chapitre aussi à Saint Paul Roux. Voilà, sa vie.
Oui, on peut dire que le soldat allemand qui a été fait ses exactions a été fusillé.
Oui. Il faut le dire pour la vérité, je le dirai d'ailleurs. Lors du colloque. Les autorités allemandes ont été quand même, ont trouvé cela absolument abominable et l'ont fait passer par les armes. Ouais.
Alors un parcours, de ce que vous venez de dire, un parcours qui est vraiment d'une originalité exceptionnelle. D'abord un Provençal qui va vivre à Camaré, dont on va d'ailleurs le retrouver dans les anthologies, on le retrouve dans les anthologies des poètes bretons.
Oui.
C'est un Provençal. Il a laissé un souvenir puissant à Camaré, puisque c'était une nature généreuse et qui était très aimée des habitants de Camaré.
Oui, il avait distribué des jouets déguisés en
voilà,
blanc.
Voilà,
Il a distribué des jouets pour tous les enfants.
Oui. Il y a des épisodes comme ça qui sont absolument étonnants. Et un destin, une fin, alors tout à fait tragique, hein, un fils mort à la guerre de 14, sa fille violée dans ces conditions-là, alors qu'il avait 80 ans. Donc un destin quand même.
Il ne méritait pas de mourir aussi tristement.
Oui. Un destin hors du commun. Et puis, c'est ce fait qu'il ait vécu quand même dans ce manoir, qui est impressionnant. J'y suis allé récemment voir les ruines de ce manoir, puisqu'il reste quand même, on voit à quel point il y avait quelque chose quand même un peu démesuré dans ce...
Oui.
mais qui lui ressemblait aussi. Hein. C'était cette démesure du poète.
Alors ce qui est dramatique aussi, et tragique du point de vue de l'esprit, c'est que... Nombre de ces manuscrits ont été détruits.
Alors voilà, ils ont été détruits.
Non seulement le manoir a été pillé à ce moment-là, mais les Anglais ont parachevé l'œuvre, en l'anéantissant sous les bombes. Et il reste quelque chose. J'ai demandé, c'est presque poétique ça comme demande, j'ai demandé qu'on fasse une recherche, mais pour l'instant ça n'a rien donné, parce qu'il faudrait faire une recherche dans l'enclos du manoir de Boultous, parce qu'il avait enfermé dans une boîte de fer un poème contre Adolf Hitler.
Ah oui.
Et ce serait quand même bien de pouvoir le retrouver, n'est-ce pas?
Oui.
Parce qu'il faut bien voir que cet homme, dès 1933, a écrit des poèmes en faveur des Juifs et contre le nazisme. Et en revanche, il a toujours été, mais c'était sous ses amis poètes, qui était comme ça à Paris à l'époque, ou la plupart, il a été pendant très longtemps sous l'influence de Marinetti pour Mussolini. C'était bien la distinction entre Mussolini, ami de Marinetti, et Adolf Hitler.
Oui.
Voilà.
Oui.
Pour ça, pour la latinité.
Oui. Je crois qu'il faut également, nous on a du mal à dissocier et à comprendre cette attitude, mais il faut se replacer aussi dans le contexte de l'époque.
Oui.
Hein.
Oui.
Alors, on va
ces
parler
rapports,
de
ces... Les rapports avec les surréalistes, peut-être.
Oui, voilà, les rapports avec les surréalistes.
J'ai parlé de la dédicace de Breton à Saint-Paul Roux dans Clair de Terre, mais ça continue dans les premières années du mouvement surréaliste, puisque le 9 mai 1925, paraît dans les Nouvelles littéraires hommage des surréalistes à Saint-Paul Roux, tout le groupe, suivi en juin d'un banquet en son honneur à la Closerie des Lilas. Mais alors là, ça s'est mal passé parce que c'est un épisode bien connu où les surréalistes, énervés par des propos xénophobes de l'écrivain Rachilde, qui avait dit comme ça, un Français ne peut pas épouser une Allemande, ou l'inverse, ça fait bon. Les surréalistes ont créé un scandale, ils ont fait un désordre épouvantable, alors il y en a eu un qui s'est suspendu au lustre et tout, ça a été... Alors le pauvre Saint-Paul Roux devait être éberlué. Bon, mais pendant toute l'entre-deux-guerres, il a connu quand même une certaine notoriété, la preuve, ça lui vaudra la Légion d'honneur en 1932, quand même, et la présidence de l'Académie Mallarmé en 1938. Donc il y a toujours eu, il y a en même temps une espèce de décalage de la réception, puisque c'est un problème qu'on connaît bien avec nombre de poètes, serait-ce que Lautréamont, entre l'œuvre qui est faite et l'œuvre qui est connue et ensuite lue, il y a quelquefois des décennies qui s'écoulent, ce qui fait que Saint-Paul Roux est à la fois un grand poète de la fin du XIXe siècle et un grand poète du début du XXe.
Alors, on pourrait peut-être parler de son œuvre. Alors, il faut dire qu'il y a eu, effectivement, à la suite de ces événements tragiques de 1940, une dispersion totale. On a perdu.
Et alors, heureusement, il y a eu Rougerie, oui. L'éditeur de Limoges, oui. Qui a eu les droits de publication, ce qui, d'un côté, est une bonne chose. Puisqu'il a publié une quantité d'inédits,
c'est vrai.
Je me rappelle,
nous
étions à l'affût de la sortie des petits livres de Rougerie, qui étaient toujours bien imprimés sur le papier. Mais inconvénient aussi, Rougerie en a fait son domaine, et il n'a pas voulu que ce soit repris par d'autres éditeurs. Et ça, c'est peut-être bien pour Rougerie, mais ce n'était pas bon pour la connaissance par le grand public lettré de Saint-Paul Roux. Et il a fallu très longtemps pour qu'on puisse disposer des poèmes de Saint-Paul Roux. Je vois que vous tenez le petit livre de la collection Poètes d'aujourd'hui de Segers, qui était très bien fait. Et là, au moins, les poètes de ma génération, non seulement ont entendu parler de Saint-Paul Roux par les témoins comme Breton et tout, mais en plus ont pu disposer de textes choisis. Grâce à ce petit livre qui est très précieux et qu'on trouve encore au plus.
Par Théophile Briand, qui devrait être d'ailleurs aussi réédité. Alors, c'est vrai que Rougerie avait fait quand même un travail important, puisque toutes les œuvres. Pour les auditeurs toulousains, ces livres de Rougerie sont disponibles en librairie chez les frères Foury. Qui est donc qui a tous les livres de Foury.
Ah d'accord.
Foury, librairie Foury. Oui. Près de la place Saint-Aubin, la rue de la Colombette.
D'accord. Voilà.
Il y a une excellente collection de poésie et dont bien entendu les éditions Rougerie.
Alors le premier œuvre dont il faut parler, bien qu'elle ait eu un destin assez heurté, c'est La Dame à la Foule.
Oui.
Mais Saint-Paul Roux, c'est vraiment le grand œuvre au sens alchimique du terme. Alors il a fait une espèce de pièce énorme, injouable, qui est, vous qui connaissez bien l'Espagne, c'est une sorte d'auto-sacramental. C'est, vous savez, l'auto-sacramental, qui est typiquement espagnol, a eu quelques exemples français indirects. Par exemple, il y a trois exemples que je vois. Il y a une pièce que personne ne lit plus, c'est Ahasverus d'Edgar Quinet. Qui lit Edgar Quinet maintenant? Personne. Bon. Qui est une espèce de grand machin, là aussi, parfaitement injouable, avec des personnages qui s'appellent les peuples de la Terre, des choses comme ça, avec des espèces de grandes allégories, de grands machins, comme dans les autos sacramentales, des allégories étonnantes. Bon, il y a La Dame à la Faux, et puis alors, plus près de nous, le chef-d'œuvre de Claudel, parce que c'est Claudel, le seul auteur français qui a vraiment écrit des autos sacramentales avec le soulier de satin, qui est une splendeur, mais qui, pendant longtemps, a été considéré comme injouable. Et la seule façon où ça a été bien joué une première fois par Jean-Louis Barrault, vous savez, et surtout quand il y a eu le célèbre cinéaste qui a fait qui a tourné Le Soulier de Satin en trois films. Trois films entiers qui sont admirables. Voilà, alors ça, la dame à la fosse s'inscrit dans cette tradition qui n'est pas très française. Alors si, on peut dire aussi que par moments, ça fait un peu penser aux pièces de Villiers de l'Isle-Adam. Vous connaissez Axel, Hélène surtout, qui est moins connue, Hélène. Et par exemple, il y a le cœur des étudiants dans Hélène, et on trouve aussi des étudiants comme personnage de la dame à la fosse. Mais alors, les personnages, c'est très curieux. Il y a par exemple un personnage qui est Mathusalem. Alors Mathusalem, alors la précision me fait rire, me fait sourire, est marqué comme très vieil étudiant, n'est-ce pas ? Vieil étudiant, oui, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il y a un très vieil astrologue, sans nom, et puis il y a un personnage qui s'appelle l'androgyne au haillon de pourpre. C'est une épithète homérique extraordinaire, ça, l'androgyne au haillon de pourpre, bon. Et puis il y a les sept vieillards, comme dans l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Puis il y a cinq étudiants, je l'ai dit, et puis le héros qui est Magnus, qui est le prénom d'un de ses fils, et l'héroïne est divine, alors là il a pris le nom de sa propre fille, n'est-ce pas, comme personnage de la pièce. Mais le personnage central, et c'est ça qui est assez terrifiant, c'est évidemment, vous le pensez bien vu le titre, c'est la mort, la dame à la faux, et c'est une sorte d'exemple, c'est pour ça que c'est vraiment de l'avant-garde, là, c'est vraiment un exemple de théâtre total. Un peu comme ce qu'a essayé de définir Antonin Artaud plus tard, n'est-ce pas ? Il est un surréaliste aussi, qui est marqué par cet auteur. Et le fameux théâtre de la cruauté, il y a des textes qui ont été republiés par la suite par Barrault, qui entrent un peu dans cela. Et alors, c'est là que, vraiment, c'est une pièce de théâtre, mais en même temps, il y a des laisses poétiques, n'est-ce pas ? Et ces espèces d'énumérations, d'anaphores que le poète a vraiment l'habitude d'utiliser, y compris dans sa poésie lyrique, et qui montrent qu'à l'époque où il écrit, c'est-à-dire donc à la belle époque, on a déjà eu la libération du vers. Avec le vers libre, déjà Gustave Kahn, Marie Krasinska ont libéré le vers. Donc les poètes s'autorisent à écrire des vers libres, et aussi le verset, tradition ancienne, reprise d'abord par Nerval, ensuite reprise par Aloysius Bertrand, par Baudelaire, et puis que Claudel et Saint-Jean-de-Perse illustreront très bien. Voilà. Alors là, il y a aussi des longues laisses et des sortes de versets, une prose poétique qui est tout à fait admirable et très moderne. Je crois que c'est ce qui caractérise la poésie de Saint-Paul Roux.
On va l'écouter peut-être ? Vous allez nous...
Oui. Voici par exemple un extrait de La Dame à la faux. Magnus dit à la mort... Avec moins cette heure-là, dis, laisse-la-moi, au moins cette heure-là, dis, laisse-la-moi vivre. Une heure, qu'est-ce une heure ? Un brin d'abstrait qu'effeuille les clochers, une obole de rêve qu'on ne peut toucher. Ce n'est pas même un peu de pain, ce n'est pas même un peu de vent. Cela ne marche, ni ne vole, ni ne bouge. Ce n'est ni blanc, ni noir, ni vert, ni bleu, ni rouge. C'est un rien. Oh, cède-moi ce rien, accorde-moi cette heure. C'est un passage admirable qui fait penser aux mots tellement émouvants de la Dubarry, montant encore un moment, Monsieur le Bourreau, n'est-ce pas ? Et alors surtout, c'est pour les poèmes de un peu avant 1900, ces poèmes qui, notamment en 1895, il y a des poèmes inspirés par le séjour en Belgique, dans les Ardennes, qui s'appellent « Le chasseur des Ardennes », où le premier vers est repris en refrain, « Forêt, je suis venu forlancer l'ennemi ». Alors il intègre dans le vieux mot « forlancer » qui est un mot médiéval, et il y a un combat contre la mort, qui est un véritable leitmotiv de tous ses poèmes en définitive, et de sa tragédie. Des images très modernes surgissent, là, c'est là qu'il est un auteur d'avant-garde. Mais alors, quelle est donc cette immense forêt ? C'est le poète Saint Paul Roux. Pour ample chevelure, j'étais frondaison dont les mies et denis, fouillis de gazouillis, s'agrègent en cerveau d'une seule raison. Et il évoque cette blonde jeune fille, toute brune de myrtille, et dit, alors, de mes prunelles en feu, j'incendierai le fagot des adieux. Image d'une totale modernité. Et il termine un autre poème du cycle des Ardennes par le vers, un poète absolu n'est qu'un commencement. Image très forte du poète in progress dans l'avenir, n'est-ce pas ? Fidèle au souvenir de Mallarmé, il écrit aussi des tombeaux. Des tombeaux pour les, en l'honneur des poètes disparus, tombeau de Baudelaire, dont le premier vers très mallarméen est hautement mûr, le fruit comme une étoile tombe, le tombeau de Mallarmé et le tombeau d'Éphraïm Michaël. Il n'y a pas beaucoup de poèmes sur Éphraïm Michaël. Et dans ce tombeau d'Éphraïm Michaël, il évoque la mort avec sa faucille d'avare au col prématuré de ta science d'or. Et le dernier tercet, plains-nous plutôt, front d'or, d'un or jamais changeant, plains tes frères pâlis par la chimère à suivre, et qui s'endormiront avec un front d'argent. Ce poème et les autres s'échelonnent de 1897 à 1907. Et là, on sent poindre ce que j'appelle l'extrême modernité. Et lisant ces textes, c'est sûr que André Breton a été fasciné par le personnage. C'est bon. Et il y a aussi, en 1895 et 1896, on est toujours dans une autre période, de la forêt des Ardennes alors que j'écrivais La Dame à la Faux. La modernité éclate dans des images très nouvelles. En vue d'écraser les langues en triangle au feutre des sentiers, donne pour mes pieds nus, forêt, donne-moi tes plus rudes sabots. C'est quand même un style très oraculaire avec des images fulgurantes. Et il use hardiment de l'hypallage, évoquant la victoire blonde du travail. Et dans une supplique à la forêt, le premier vers ou verset formera refrain « Grand-mère en bois, c'est la forêt, grand-mère en bois, adopte-moi », avouant un animisme enfantin et enchanteur. Je prévois à ma cime une grappe de nids à forme de cerveau, leurs idées en oiseaux, des oiseaux gazouillant l'hymne de mon silence. C'est beau, ça. Éblouissante fête en mon ancienne tête, où tant de becs ressuscitent ma langue au fin d'exécuter le plus rare poème que je n'eusse jamais chanté de mon vivant, et mon arbre ébrié fera salir dans le vent. Là, c'est le ton, le souffle et l'image.
C'est la formule d'André Breton.
Voilà, c'est ça. L'image. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est certains mots-clés de toute l'œuvre et de toute la pensée, et pas simplement les poèmes, de Saint Paul Roux, parce qu'il a écrit constamment des manifestes ou des fragments de manifestes. Il n'a pas écrit deux ou trois manifestes très circonstanciés et très localisés comme Breton par exemple, mais tout au long de sa vie il y a des éléments de manifestes. Et en cela d'ailleurs, lui comme Breton était sous l'influence de Marinetti, qui dès 1905 dans le Figaro avait écrit le texte fulgurant, le manifeste du futurisme. C'est pas rien. Et alors, les trois mots, c'est d'abord le magnificisme. Il s'intitule Saint Paul Roux le magnifique. C'est pas une espèce de bouffée de vanité ridicule, pas du tout. C'est qu'il a une conception magnifique du monde. Le cosmos, il a déjà été, comme son nom l'indique, bien arrangé par Dieu, n'est-ce pas ? Par le Dieu créateur. Mais il faut constamment le chanter, le remagnifier, en exprimer la beauté. C'est le rôle du poète. Et je crois que les grands poètes du XXe siècle ont tous eu un peu cette idée de recréer, co-créer et magnifier le monde. Oui. Et ensuite, il y a l'idéoréalisme ou idéoréalité. Il insiste beaucoup là-dessus. Il n'emploie pas le mot surréalité, n'est-ce pas ? Que les gens de l'entourage de Breton et d'Apollinaire ont employé, n'est-ce pas, les premiers ? Mais c'est à peu près la même chose. L'idéoréalité, ça ressemble tout à fait à la surréalité. Et puis, et même un troisième mot qui est moins heureux d'un point de vue poétique, c'est la ré-poétique. Ré, le préfixe, étant la chose, n'est-ce pas ? La ré-poétique, comment arriver à donner la poésie aux choses. Quelle est la poésie des choses, c'est-à-dire quelle est la substance des choses et quelle est la surréalité, en définitive, du monde que l'on a à chanter. Et tout cela, dans le souvenir, tous d'ailleurs ont le souvenir du surnaturalisme de Nerval. Et bon, ils se sont pour la plupart rangés au mot surréalisme parce que c'est Apollinaire le premier qui l'a tenté. Et avec d'ailleurs, il n'est pas seul Apollinaire, il a été suivi par Pierre-Albert Biro, un grand poète qui est un peu oublié, Paul Dermé, qui a été longtemps en bisbille avec Breton, et André Breton lui-même. Ils forgeront tous les mots de cette famille et les illustreront jusqu'à nos jours. Et alors, dans l'autre élément de modernité, je trouve, c'est dans le poème Épiphanie, un titre très parlant, puisque le poète est constamment en train d'essayer de transcrire une épiphanie du monde qu'il observe et dans lequel il vit. Alors, il utilise d'images très nouvelles encore. La démantelée cabane de mon cœur, faut le faire quand même, et un branle-bas énorme de formes emblèmes, tous les papillons imprécis de mes sens, et toute une laisse rappelle les images les plus hardies de Lautréamont, le paon suranné de ma mélancolie, le corbeau de mort sur mes remords perchés, l'aspic de mes poisons, l'écureuil de mes folies, l'éléphant de mon désir, la pieuvre de mes deuils, la fourmi de mon plaisir, le loup de mes péchés, le taureau de mes instincts, le lion de mes passions, le vautour de mon destin, etc. Et là, on est tout à fait à la séquence de Lautréamont. C'est pour ça que ce poète est mal connu, méconnu, mais qu'il faut le replacer dans son temps, qui est un temps, justement, entre les grands poètes que j'ai évoqués tout à l'heure, et puis l'affleurement qui va se produire, hélas, à la veille de la guerre de 14, avec Apollinaire et ses disciples.
On voit vraiment de l'importance de cet auteur, hein, Saint-Paul Roux, que Mallarmé appelait mon fils, mais que d'autres aussi appelaient le roi lire.
Le
roi lire.
Oui, oui, et oui. Alors, et d'ailleurs, il emploie souvent le mot roi. Oui. Alors, cette sorte de royauté, au sens du roi du monde, comme Guinon le voyait. Hein, le poème avec... Il y a un poème, par exemple, où il dit... Voici l'agneau de vérité qui vient démensonger le monde. C'est beau, ça. C'est une création assez nouvelle. Qui vient démensonger le monde au nom de la beauté. Et alors, il y a la reprise de l'évocation du cœur, puisqu'il parle souvent du cœur, dans une image qui est tout à fait singulière. Mon cœur est depuis lors toute lumière et toute joie, telle une chaumière où sourirait un roi. Telle une chaumière où sourirait un roi. Ouais. Et alors, bon, c'est vrai que tout poète peut être tenté par une certaine paranoïa, par une certaine... Alors, voir Hugo, tout poète est un peu à la séquence de Victor Hugo de ce point de vue. Mais quand même, il y a cette idée qui n'est pas idiote que le poète arrive à une certaine royauté dans le monde parce qu'il a la vision de choses qui échappent au commun des mortels et son rôle est de passer, et un rôle de passeur. Et là, il le fait très bien. Et à tout moment, il vit dans un château, mais il évoque toujours la chaumière. Et il y a même un poème où il y a un dialogue entre la chaumière et le château qui est tout à fait singulier. Vous savez que le livret de Louise est assez populaire. C'est la première fois qu'il y a des gens du peuple qui sont dans un opéra, pratiquement. Et donc, il ne faudrait pas avoir une espèce d'orgueil insensé et méprisant. C'est pas du tout Saint-Paul Roux, il est très proche des gens, il n'y a qu'à voir sa vie quotidienne en Bretagne, il était très aimé de la population. Donc c'est quelqu'un vraiment pour lequel j'ai à la fois de l'admiration et de la sympathie.
Dans ce que vous disiez à propos de cette idée du roi, c'est-à-dire du passeur, Je retrouve un peu ce que dit Henri Méchonnet à propos du côté prophétique du poète. Hein. Et je crois que Saint-Paul Roux me semble être justement un poète tout à fait prophétique.
Oui. Mais je le pense, oui, oui. Avec ce côté oraculaire.
Voilà,
oui,
voilà.
Oui, oui. Alors, je pense que il faut. La prophétie ne se justifie que si elle comprend aussi la prophétie. C'est-à-dire que le prophète est aussi un homme de tradition. Il faut plonger dans la tradition et être d'avant-garde. C'est tout le paradoxe du poète. Et ceux qui se contentent de rester dans la tradition iront au Rhône, et à la période envisagée, il y a beaucoup de poètes qui se contentent de ronronner. Il y a un poète délicat, Albert Samain, par exemple. Vous pouvez lire Albert Samain, ça ne vous fera pas de mal, n'est-ce pas? Ce n'est pas une poésie qui vous agressera beaucoup. Elle est charmante, elle est bien faite. Mais on sent que c'est une limite. Elle se referme sur elle-même et ça n'ouvre pas sur quelque chose de nouveau. Ou alors, c'est un peu le cas d'Henri de Régnier, qui est un fin poète, mais qui sécrète quand même un ennui mortel. Ce qu'a exprimé un humoriste en disant Henri de Régnier, c'est un cadavre, oublié sous la pluie par un assassin distrait. Bon. Un cadavre debout, c'est ça? Oui, parce qu'il était toujours debout, n'est-ce pas? Un cadavre debout, oublié sous la pluie par un assassin distrait. Bon, alors ces poètes-là, ce sont des poètes agréables, mais qui n'ouvrent pas sur l'avenir. Et là, au contraire, dans cette période de la Belle Époque, Saint-Paul Roux ouvre vers l'avenir.
Il dépasse.
Il dépasse.
Il a la tradition, mais
il a le côté prophétique.
Et en faisant ça, en définitive, il la sauve, la tradition aussi.
Oui, absolument. Hein,
parce qu'il va en créer une autre, etc.
Et en fait, revenir à Breton, c'est un peu le paradoxe de Breton. Breton, qui est l'image même de l'avant-garde, et cependant, est un homme qui cherche les grands ancêtres à tout moment. Et qui se rattache à la tradition. Et je ne vois pas de contradiction dans cela.
Oui, il y a plein de contradictions. Oui, c'est qu'il faut bien comprendre
la complémentarité de toute création poétique. Oui.
Parce que aussi, on ne part pas de rien. Tout créateur part à partir de ce qui a été créé quand même avant lui. Ça n'existe pas quelqu'un qui. Il n'y a pas un créateur qui n'ait eu une influence.
Mais oui, regardez par exemple Claudel. Claudel, qui est vraiment dans cette période, hein. Claudel, il écrit les grandes odes en 1907, 1908, et elles sont publiées en 1910. Hein. On est quand même tout près, là.
Oui.
Et Claudel, il est né en 1868, et lui, en 1861, vous savez, Saint-Paul Roux n'est vieux que, n'a que 7 ans de plus que Claudel. Hein. C'est quand même la même génération. Or, Claudel, lui, c'est le grand disciple de Rimbaud. Il a été foudroyé par Rimbaud. Et ensuite, par la grâce. Il a vécu toute sa vie avec ce.
Je suis allé voir.
Le foudroiement, n'est-ce pas?
Je suis allé voir il y a quelques jours le pilier devant lequel, à Notre-Dame, devant lequel il a eu ce foudroiement.
On est toujours le disciple de quelqu'un. Mais c'est pas méprisant que de dire ça, c'est même encourageant, je trouve. Il faut toujours être d'abord un disciple. Il y a un certain nombre de. La plupart des surréalistes ont été disciples de Lautréamont. Mais j'ai un surréaliste que j'aime beaucoup, qui est toujours ami, qui est André Liberati. Et lui n'était pas disciple de Lautréamont, mais pour lui, il avait été fasciné par Rimbaud et Verlaine. Rimbaud et Verlaine, les deux grands poètes. Donc d'autres commencent avant, Baudelaire et tout. Mais on a toujours ces grands anciens, et je crois qu'il faut le dire aux jeunes poètes qui ont toujours l'impression de tout découvrir. Il faut d'abord ce l'innutritio, comme on disait à la Renaissance. Il faut d'abord l'innutritio, commencer à lire les grands anciens, et après s'exprimer soi-même, en essayant à la fois de s'en dégager et d'aller plus loin.
Bien sûr.
Vous connaissez la métaphore du nain sur les. C'était Hugo qui disait ça. Hein. nous sommes des nains sur les épaules des géants, mais nous voyons plus loin. C'est admirable comme formule, admirable, parce que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
C'est une excellente image. Nous sommes des nains, des géants, mais nous voyons plus loin. Alors, dans les minutes qui nous restent, est-ce qu'on ne pourrait pas faire entendre cette voix de Saint Paul Roux, éventuellement
Mais peut-être avec un poème encore plus ancien. Pardon. Où est-ce qu'il est là ? Voilà, il y a un poème qui date de 1890 et qu'il a écrit quand il était encore à Saint-Henri, c'est-à-dire il l'a écrit très jeune, et qui est un poème extraordinaire qu'il a dédié à Francis Vielle-Griffin, qui est un poète bien oublié, mais dont Breton me parlait. C'est dire quel point Breton avait été très influencé par Vielle-Griffin, qui est un symboliste, n'est-ce pas ? Et sur un ruisselet qui passe dans la luzerne. Alors vous verrez, à la lecture, on s'aperçoit qu'il use, et pour ne pas dire abuse, de l'anaphore, procédé que reprendra Apollinaire, n'est-ce pas ? Ô l'onde qui file et glisse, vive, naïve, lisse, parmi les prairies du songe, des filles se révèlent parfois la chevelure telle. Ce ruisselet, parvu les frais, sans doute est un lézard de désert pur, épanoui lézard qu'une étincelle d'œil ferait s'évanouir. Sur le silence des ongles inférieurs, noyés dans ce saule propice, admirons la pèlerine de la langue et de la racine qui s'achemine en la luzerne. Oh, cela coule sur des cailloux arrondis par l'obséquieuse politesse, suggérant les chauves jabotés sans leur perruque printanière. L'azur inclué, n'est-ce point, la perceptible remembrance des prunelles nymphales qui s'y sévisirent. Admirons sans s'y mirer, et de loin sourions, de peur d'effaroucher. Combien joli de sourire à du rire qui glisse ainsi que des larmes divines. Je me mis à prier comme devant une statue de la Vierge en fusion. Onde vraie, onde primaire, onde candide, onde lisse et cygne, onde sueur de l'ombre, onde baudrier de la prairie, onde innocence qui passe, onde lingot du firmament, onde litanie de matinée, onde choyer des vasques, onde chérie par l'iguière, onde amante des jarres, onde en vue du baptême, onde pour les statues à socle, onde psyché des âmes diaphanes, onde pour les orteils des fées, onde pour les chevilles des mendiantes, onde pour les plumes des anges, pour l'exil des idées. Je passe un peu plus loin parce que c'est très long. Onde banderole du vitrail rustique, onde écharpe que gagne la fatigue, onde palme et rosaire des yeux, onde versée par les charités simples, onde rosée des étoiles qui clignent, onde pipi de la lune aux mousselines, onde jouissance du soleil en roue de pan, onde analogue aux voix des aimés sous le marbre, onde qui bellement paraît une brise solide, onde pareille à des baisers visibles se courant après, onde que l'on dirait du sang de paradis les ailes, je te salue de l'Elseneur de mes péchés. Tout à fait admirable. Il a écrit ça en 1890.
Oui, c'était un ami de Rémy de Gourmont aussi.
Oui.
Et très attaché à la spiritualité.
Oui, ça n'a pas empêché André Breton, qui était un peu réticent chaque fois que il a, vous voyez, des termes un peu religieux, là, de l'admirer. Oui, c'est exact. Oui, il a toujours été une spiritualité sans le fanatisme un peu brutal de Claudel. Il a toujours été une haute spiritualité. Spiritualité, d'ailleurs, plutôt catholique, mais ne dédaignant pas tout l'apport des mythologies nordiques, etc. Il est, de ce point de vue, il y a plusieurs rivières qui arrivent à son fleuve.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Lassalle. Donc, on rappelle que ce colloque aura lieu à l'hôtel d'Assesa, à Toulouse, le siège de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, la plus vieille académie d'Europe, puisqu'elle a été créée en 1323. Et que ça aura lieu vendredi, donc 27 octobre à 17h. Vendredi 17 octobre à 17h dans la salle Clémence Isaure à l'hôtel d'Assesa. Vous aurez le plaisir de voir donc c'est messieurs les mainteneurs, en particulier le professeur Arlet et le professeur Lassalle. Donc, vous parlez de ces poètes de la belle époque qui ont été une véritable avant-garde. Merci beaucoup, monsieur le professeur Lassalle. À très bientôt. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à Licence.